Vous écoutez
RMC.
Il est 6h sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise, bonjour à tous.
La longue attente avant le grand frisson.
France-Maroc, quart de finale de la Coupe du Monde, coup d'envoi 22h. Pourquoi on va trembler? Pourquoi c'est un match à suspense? On se met dans l'ambiance en direct des États-Unis dans un instant. La canicule, c'est 35 à 40 degrés dans les deux tiers du pays et le risque d'un pétage de câble, littéralement, qui pousse la SNCF à annuler des trains. Et puis, y aura-t-il assez de profs à la rentrée? Le ministre de l'Éducation nationale en exclusivité sur RMC ce matin pour dévoiler les résultats des concours d'enseignants.
Allez, on commence le compte à rebours. Il reste 16 heures avant ce France-Maroc.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Il y a la petite boule au ventre en se réveillant pour les supporters, les pronostics qui fusent au boulot. Bref, un matin de quart de finale de Coupe du Monde. Jean-Louis Tour en direct de Boston, c'est avec vous qu'on vivra la rencontre sur RMC. Et si on est si impatient, c'est parce que c'est la première fois là que les Bleus croisent une équipe qui peut réellement les sortir.
Et oui, c'est logique car la montagne s'élève pour l'équipe de France ce soir. Didier Deschamps le sait, il connaît la chanson car ce sera son quatrième quart de finale de Coupe du Monde ce soir. Et hier, il n'a pas voulu dévaluer les précédents résultats des Bleus aux États-Unis tout en reconnaissant que l'adversité augmente.
On a pu se rendre certains matchs faciles, mais on a eu de l'opposition élevée aussi. Maintenant, vous n'êtes pas en quart de finale de Coupe du Monde, comme ça, il y a forcément la qualité qui augmente. Plus on gravit la montagne, en face, c'est meilleur aussi.
Le Maroc qui reste sur une demi-finale de Coupe du Monde en 2022 et sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et pour contrer cette équipe, Didier Deschamps va, selon nos informations, privilégier Désiré Doué, décisif lors de son entrée contre le Paraguay à Bradley Barcola, son partenaire au PSG. En revanche, Aurélien Tchouaméni, de retour hier à l'entraînement, devrait débuter sur le banc en manque de rythme après sa blessure aux adducteurs. Les joueurs qui, vous l'entendez derrière moi, il y a quelques minutes, étaient gênés pour s'endormir car il est minuit ici à Boston, gênés par un concert de klaxons, de tambours, des feux d'artifice que vous avez deviné derrière moi, lancés au-dessus de l'hôtel des Bleus par des supporters marocains. Il a fallu l'intervention du service de sécurité des Bleus pour rétablir la situation.
Merci Jean-Louis Tour et on espère qu'on fera la fête cette fois. Nous, à partir de 22h ce soir avec vous aux commentaires, dispositif de sécurité important en France pour ce match. Les transports et la vente d'alcool sont limités dans certaines grandes villes. Près de 20 000 policiers et gendarmes mobilisés selon nos confrères du Figaro, un peu moins de la moitié à Paris où la place de l'Étoile et ses abords seront fermés à la circulation. Véhicules interdits aussi dans deux quartiers de la capitale, la Roquette dans le 11e arrondissement, le Marais dans le centre de Paris, et ce pour tous les soirs de match jusqu'à la finale pour laisser le champ libre aux supporters. Marion Gauthier.
Des barrières de bois le long du trottoir sous un auvent vert. Terrasse fermée à 23h jusque-là.
On n'aura plus besoin de galérer, passer minuit pour pouvoir rester plus longtemps en terrasse.
Pour voir les matchs tardifs de cette Coupe du Monde, souligne Hippolyte, Ernest en face de lui.
Je préfère largement l'ambiance sur des terrasses où on peut crier ensemble, stresser ensemble.
Où les gens ils passent dans la rue aussi, ils s'arrêtent.
Exactement. Ça klaxonne, ça crie et on peut connaître le résultat même si on n'y est pas. On vit l'ambiance comme dans un stade.
À l'intérieur, c'est Donald qui gère le pub.
On a à peu près 80 places en terrasse, sauf ça fait une sacrée différence qu'on puisse mettre les matchs dehors.
Du chiffre en plus, un stress en moins souffle aussi Yazid dans son café.
Pour nous, la terrasse éphémère, c'est toute la rangée et les trois tables devant. Ça nous soulage. On n'a pas surveillé la police municipale tous les soirs, de peur de prendre une amende.
Un voisin acquiesce, il est installé à une table.
Je me dis que ça représente quoi, 5, 6 ou 7 soirées. C'est quand la dernière fois qu'on a joué, jusqu'à minuit ou une heure.
Pour ce soir, toute la terrasse est déjà réservée.
On vous attend ce matin au 32-16, supporters des Bleus, bien sûr, supporters marocains aussi. Alors depuis ce matin, on a eu Nadia, on a eu Rachid, des franco-marocains aussi. Parfois, on est un peu divisé, un peu partagé. Quoi qu'il arrive, on a gagné. Venez nous dire aussi dans quel contexte vous allez regarder ce match. Est-ce que c'est à la maison, entre amis, en famille? Est-ce que vous sortez? On vous attend ce matin au 32-16.
Un frayeur écarté ce matin dans le Cher où un incendie se rapprochait dangereusement d'une usine d'armement classée Seveso. Évacuation et confinement d'une centaine d'habitants près de Bourges. Elle a été levée dans la soirée. D'autres feux ont été fixés hier dans le Loir-et-Cher. Ça continue de brûler en revanche dans la Drôme, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. Nouvelle journée compliquée en perspective pour les pompiers, d'autant que toute la France métropolitaine est en vigilance canicule, dont 72 départements en orange. La barre des 40 degrés sera très souvent au moins frôlée. Conséquence directe pour la SNCF, des annulations de trains préventives par crainte de voir des câbles ou des caténaires céder au-dessus des voies, Lucas Laubert.
Oui, un tiers des trains sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse et la transversale sud entre Bordeaux et Marseille sont supprimés. Dans l'ensemble de la France, un quart des départs des trains intercités sont également concernés. Des annulations sur les lignes TER aussi, dans les régions où les températures sont exceptionnellement élevées. Les TGV n'échappent pas aux perturbations. Quelques adaptations à la marge, explique SNCF Voyageurs à RMC, de l'ordre de quelques trains, soit de façon préventive, soit lorsqu'ils nécessitent des réparations. Les voyageurs concernés ont été prévenus des jours à l'avance et sont replacés sur d'autres trains sur la SNCF. Si vous n'avez reçu ni SMS ni email avant de vous rendre en gare, vérifiez bien que votre train circule, que ce soit en ligne ou sur l'application SNCF Connect.
On n'est pas prêt et on n'est pas à la hauteur des enjeux. C'est ce que dit le Haut Conseil pour le climat ce matin. Exemple, avec nos voies de chemin de fer, nos trains surtout qui ne tiennent pas la route. Dès que c'est trop chaud, il faut annuler des voyages. C'est pas comme si on partait en vacances. Tiens, vous nous dites un peu si vous êtes impacté au 32-16, si ça vous inquiète. Et puis on accueillera Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet SIA Partners à 6h40 sur RMC.
Et ce matin, à 7h40 sur RMC, le ministre de l'Éducation rend les copies. Édouard Geffray viendra dévoiler dans Apolline Matin les résultats des concours d'enseignants, c'est-à-dire le nombre de nouveaux profs qui viendront combler le manque d'effectifs. En tout cas, les candidats ont été plus nombreux cette année grâce à la dernière réforme qui a ouvert les concours au Bac plus 3. Alors la nouvelle formule a-t-elle séduit ? Louis Salé a demandé à des lauréats.
Pierre a travaillé plus de 10 ans derrière un bureau, mais sa carrière de directeur marketing ne lui convient plus.
Ça va me faire un changement radical, mais c'est ce aussi à quoi j'aspire. C'est le fait de travailler moins sur mon ordinateur, plus avec des êtres humains, qu'ils soient petits ou grands.
Et il appréhende un peu sa rentrée.
Le 1er septembre, je pense que je serai plus intimidé que mes élèves. Potentiellement, ça peut générer du stress, des insomnies. On a beaucoup parlé des scandales du périscolaire qui vont créer, à juste titre, de la défiance aussi envers les professeurs. Qui plus est, moi je suis un homme, donc ça amène des difficultés, c'est sûr. Après, le métier, il est magnifique et j'espère pouvoir aider les élèves de la meilleure des manières.
En septembre, Pierre suivra une formation d'un an tout en enseignant à mi-temps, rémunéré à 1800 euros. Une nouveauté de la réforme qui a séduit Maria Louisa. Elle vient de passer le concours, désormais accessible après 3 années d'études.
On est rémunéré cette année, qui est une très bonne chose. Il y a aussi cette possibilité de pouvoir passer en bac plus 3 et d'accéder plus facilement à sa classe.
Et elle a hâte aussi de suivre les pas de sa mère et de son grand-père qui ont été professeurs.
Louis Salé pour RMC.
Les États-Unis pilonnent l'Iran pour le deuxième jour consécutif.
90 cibles touchées ces dernières heures selon l'armée américaine. Téhéran a riposté en visant ses voisins et alliés de Washington, le Koweït et le Bahreïn. Mais pour l'expert en géopolitique Ulrik Bouna, il ne faut pas forcément y voir un retour durable de la guerre.
Les Iraniens comme les Américains n'ont pas véritablement envie de repartir dans une guerre totale. Les Iraniens parce que malgré tous ces bombardements ont eu un impact sur l'économie du pays et les Américains parce que il y a quand même cette impression que bombarder plus mais pour obtenir quoi de plus. En revanche, le flou qui reste sur les conditions d'ouverture du détroit d'Ormuz, elles vont durer. On risque de rester dans cette espèce d'état de non-guerre et de non-paix tant que le détroit d'Ormuz aura une espèce d'importance stratégique et tant que les sujets de fond n'auront pas été traités, notamment le nucléaire. Et ça, pour le coup, il faudra des mois, voire peut-être des années pour y arriver.
Et puis un mot du Tour de France, 6e étape et les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Le col du Tourmalet, notamment au programme de cette étape de 186 km au départ de Pau.
Merci Victor, c'était le journal de 6h et on va tout de suite accueillir Christophe au 32-16. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Christophe, vous nous appelez depuis la Haute-Savoie, vous êtes électeur du Rassemblement National et on vous a posé la question ce matin de savoir si Marine Le Pen allait pouvoir mener sa campagne sereinement dans le contexte qu'on connaît après sa condamnation. Vous vous dites que c'est une grosse bêtise ce qu'elle a fait.
Ouais, je pense que elle va tenter de la mener sereinement, ça c'est un fait, mais je pense que c'est inconcevable, c'est complètement illogique et elle perd toute crédibilité.
Pour vous, moi, c'est une question de principe.
Ouais, tout à fait. Moi, j'attends de mon dirigeant, du dirigeant de la nation, qu'il soit complètement exemplaire et transparent. Moi j'ai envie de vous dire l'exemple qu'on va donner à toute notre jeunesse, à des joueurs à qui on demande de respecter des lois, des règles au quotidien. Si les gens qui nous dirigent les bafouent eux-mêmes, alors je sais qu'elle n'est pas encore, elle a le pouvoir en cassation et elle pourra peut-être.
Oui, et elle d'ailleurs dit qu'elle est innocente.
Ouais, tout à fait. Mais alors donc moi je reste sur ma ligne de conduite. Je me dis tiens, je vais la voter. Et puis dans 6 mois, puisque je pense que c'est aux alentours du mois d'avril, on m'annonce qu'en fait elle est déclarée réellement coupable. Qu'est-ce que je dis alors, mauvaise pioche? Ah ouais. Ben oui, en fait elle l'était. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
Mais du coup c'est Christophe, ça. Est-ce que vous comprenez les images qu'on a pu voir hier lors de son premier déplacement dans la Sarthe, tous ses opposants, on a eu des coups de casserole, on a eu des slogans. Vous comprenez la colère des gens?
Ouais, bien sûr. Bon, alors là, Élise, concernant les oppositions, oui, ils sont dans leur rôle. On n'attendait pas un autre comportement de leur part. Mais oui, en règle générale, c'est absolument compréhensible et normal, quoi.
C'est intéressant, Christophe, vous le dites de manière posée. Je suis désolé, vous êtes électeur RN vous-même, perplexe, et vous vous dites voilà, ça va arriver début à la Cour de cassation, dit avant avril. Hein. Ouais. Donc techniquement, juste dans la dernière ligne droite. Est-ce que d'ailleurs, même quand on est électeur RN comme vous, on se dit pas qu'elle met notre camp en danger, quoi, finalement avec la présidentielle. Merci Christophe de votre appel, votre regard sur cette actualité qu'on continue d'explorer, de discuter avec vous au 32-16. Très bon réveil, merci Christophe. 6h12.
Dans un instant, c'est le choix de la rédaction. On retrouve Amélie Courtet. Bonjour Amélie.
Bonjour Élise.
Amélie, vous allez nous présenter les footix de la Coupe du Monde, ces supporters en herbe qui se révèlent à chaque mondial.
Ils sont présents tous les 4 ans, mais ça ne fait pas d'eux des moins passionnés du ballon rond pour autant.
Allez, on va bardasser football, même avec les novices. Vous êtes tous les bienvenus. À tout de suite sur RMC.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h14, vous êtes bien sûr RMC. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Moi j'adore l'intelligence artificielle, hein. Déjà qu'on avait des chansons très bizarres quand il n'y avait pas l'IA, alors maintenant on en a pour tous les joueurs, toutes les équipes. Le premier quart de finale de ce mondial, c'est ce soir, France-Maroc, 22h, rencontre à suivre en direct en intégralité sur RMC. Et si vous êtes fan de foot, vous en avez forcément dans votre entourage. On parle ce matin des footix.
Et on en parle avec Amélie Courtet. Bonjour Amélie.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu.
Alors les footix, ce sont celles et ceux qui se révèlent supporters de foot lors des grosses compétitions, c'est-à-dire grosso modo une fois tous les 4 ans, et notamment au moment de la Coupe du Monde, Amélie.
Oui, on les repère très vite, un petit test les trahit.
Si je vous demande qu'est-ce qu'un hors-jeu?
C'est quand t'as fait quelque chose d'interdit.
C'est quand l'attaquant va passer la balle à l'autre attaquant. Mais non, mais c'est vrai.
Alors, je sais pas, là, quand la balle elle sort.
Combien il y a de joueurs sur un terrain de foot
10 par équipe.
Avec ou sans le goal?
12? Non, 11. J'étais presque.
Si vous deviez me citer là, 5 joueurs de l'équipe de France.
Kylian Mbappé, mais après le reste.
Dembélé, je crois. Et ça s'arrête là.
Si, après.
Olis, un truc comme
ouais,
ça.
Tu l'as.
Oui, Michael Olise. Donc les footix, c'est monsieur et madame à peu près, mais ça ne les empêche pas de suivre la Coupe du Monde à fond. Dans les bars, ça saute, ça crie. C'est le cas en tout cas au My Bar, dans le 14e arrondissement de Paris. Ici, toutes les rencontres sont diffusées. Enzo, le responsable, le voit, hein, ces dernières semaines. Il y a effectivement de nouvelles têtes devant les écrans et des commentaires qui mériteraient un bon carton rouge.
Est-ce que Zidane va rentrer ou Deschamps, il entraîne l'équipe de France, mais il sort d'où ce mec-là? Ouais, bien sûr que ceux qui viennent juste pour la Coupe du Monde ou pour l'équipe de France, on les remarque. Souvent habillés de la tête aux pieds en équipe de France, qui connaissent les joueurs, mais pas trop, qui vont vraiment mettre de l'ambiance, mais ils me dérangent pas. Tant qu'on peut ramener des supporters, nous c'est ce qu'il faut. Hein. C'est ça aussi la Coupe du Monde, c'est un peu le mélange de tout le monde.
Alors dans ce beau mélange d'anciens et de nouveaux supporters, il y en a qui finissent par se découvrir une vraie passion pour le foot.
Oui, j'ai rencontré Anaïs, elle a 26 ans. Alors elle a raté tous les épisodes de la Ligue 1, mais sa série du moment, c'est l'équipe de France. Devant tous les matchs et même sur son téléphone, c'est...
Foot, foot, foot... Là, c'est Désiré Doué.
Il est exceptionnel, on le voit match après match.
Sur Insta, je pense que je passe 1 à 2 heures par jour en vrai à scroller pour regarder les commentaires d'après-match, avant-match, plutôt tellement une footix. Comme il y a un engouement collectif, et ben j'ai envie de faire partie de cet engouement. On a aussi une très bonne équipe, donc c'est quand même beaucoup plus facile de suivre une bonne équipe qui gagne. Et je pense que ça rapporte beaucoup de joie aussi.
Mais Amélie, les vrais supporters de foot, ça les agace pas d'entendre des analyses approximatives et des gens qui connaissent rien ?
Il y en a effectivement qui fuient les bars pour ne surtout pas croiser ces fameux footix et qui préfèrent regarder le match entre connaisseurs. Mais pour éviter leur jugement, j'ai une solution, hein, il n'est pas trop tard pour se mettre à niveau. Rendez-vous sur le compte TikTok de Mouna où elle explique toutes les règles.
Le carton, c'est une pénalité qu'on donne quand tu commets une faute. Okay, je
vais voilà, vous dire, elle reprend vraiment toutes les bases. Ce compte, The Girly Coach, elle l'a créé une semaine avant la Coupe du Monde. C'est à destination des femmes. Je précise tout de même qu'elles ne sont pas les seules footix. Il y en a parmi les messieurs. Elle, donc, Mouna, elle est fan de foot, supportrice du FC Barcelone. Elle a tout simplement voulu rendre cette Coupe du Monde, ce sport, plus accessible.
Mes retours, c'est beaucoup de filles qui se disent que maintenant, elles ont envie de peut-être suivre le foot à l'année. C'est OK, en fait, d'être une footix. On est tous le footix de quelqu'un, en fait. Donc, je pense que vraiment, il faut rester sur l'idée que le foot, c'est fédérateur et que ça doit être un moment de partage.
Donc voilà, on est tous le footix de quelqu'un. Elle l'a dit, donc pas de honte. Moi aussi, je plaide coupable. Je suis une footix, la première à porter du maquillage, des lunettes bleu, blanc, rouge pendant les matchs, à crier sur l'arbitre parce que quand même là, il y avait faute là. Mais à ne pas comprendre pourquoi Deschamps doit revenir au 4-3-3 ou perfectionner son 4-2-3-1. Quoi qu'il arrive ce soir, je crierai à l'unisson avec les footeux. Allez les bleus,
les bleus. Les bleus. Et Amélie, vous avez raison de préciser qu'il y a des tas de footix hommes, il n'y a pas que des femmes.
Tout à fait.
Et il y a aussi des tas d'expertes. Aussi, il faut le dire, des tas de...
Ah bah oui, on en a.
Là, quand même, il y a Karine Galli chez nous qui est... Et on a eu Émilie, par exemple, Bad oui. Gone à Lyon, qui nous dit « Je déteste les footix ». Bon, elle a l'air experte et supportrice. Est-ce qu'il est expert au footix, tiens, Mario, qui est à Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard? Dans le Gard, il doit avoir chaud, ça c'est sûr. Salut Mario.
Salut Mario.
Eh bien, bonjour à la belle équipe de RMC, aux auditeurs, j'espère que vous allez bien.
Bon, comment ça va, Mario? Vous allez suivre le match ce soir?
Oui, je vais suivre, je vais squatter chez mon oncle et avec les cousins et tout, et ouais. Dans la piscine, on va mettre la télé dehors et on va squatter la piscine.
Wow. Bon, alors parmi les cousins dans la famille, est-ce qu'il y a des footix ou est-ce que vous êtes tous complètement experts?
Non, il y a beaucoup de footix, à part les anciens, mais eux, c'est des ultras de fans d'Atalanta en Italie, eux, c'est des experts en foot. Mais nous, on est plutôt footix, mais on aime bien le foot. Par contre, ce match aujourd'hui, il va donner. Attention, le Maroc, qui peut faire de belles choses, parce que c'est une très belle équipe.
Très belle
même
équipe.
Si au départ, ils ont du mal à chaque fois à juger l'équipe d'en face, mais ils ont un taux d'adaptabilité extraordinaire. Donc moi, je vois 2-2 à la fin du temps réglementaire.
À vous aussi.
Et par contre, le plus dur, ça va pas être le match, ça va être l'arbitrage. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, parce que personne n'en parle, à part sur les réseaux sociaux, tous les fans de sport et même les arbitres, qui disent qu'avant la Coupe du Monde, le président de la FIFA, il a dit qu'il voulait pas voir la France gagner et qu'il était pour que l'Argentine gagne. Et quand on voit comment l'arbitrage qu'il y a eu pour France-Paraguay et Argentine-Égypte, je me dis que là, avec 5 Argentins comme arbitre, ça va être chaud.
Je vous l'accorde, c'est cocasse, Mario, c'est très difficile. Moi, j'aime pas s'en prendre par défaut aux arbitres. Il y a eu un vrai problème avec le match Paraguay-France. Personne ne dira le contraire. L'Argentine, on le voit sur les réseaux, accusée d'être favorisée. Ça reste une très belle équipe et un très grand joueur, Léo Messi, quand même. Et là, l'annonce des 5 arbitres argentins, je crois que c'est du jamais vu d'avoir 5 arbitres de la même nationalité pour arbitrer le match de l'équipe de France. On verra, Mario, on jugera sur pièce.
Ah, mais j'espère que ça sera du bon sport.
Il faudra juste être meilleur.
Là, si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous voyez même les arbitres de France, mais ils ont dit, mais c'est quoi cet arbitrage? C'est quoi ce mouvement de Coupe du Monde?
On va voir, Mario, on verra sur pièce, mais moi, je pense qu'il y a les qualités nécessaires pour ne pas avoir souci de cette question-là. Espérons-le, en tout cas. Mario, merci beaucoup de votre appel et bon match dans la piscine. J'ai tellement envie, là. T'imagines sur un truc
gonflable. On peut venir, Mario, ou pas?
Oh là là.
Ah, ben, si vous voulez, la piscine est grande.
Ah, génial. En plus, on accepte les footix.
Mario,
je peux y aller.
Bon match à vous et peut-être à demain matin, il est 6h21.
Et ce bruit, c'est toute mon adolescence. Tout doom, bien avant celui de Netflix, suivi de cette musique. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le générique de New York Unité Spéciale. Et si je vous en parle ce matin, c'est parce que son actrice star, Mariska Hargitay, va présenter la 78e cérémonie des Emmy Awards.
Et alors figurez-vous que c'est la première femme à le faire depuis 15 ans. La dernière en date, c'était la comédienne et chanteuse Jane Lynch en 2011. Jane Lynch qui était notamment connue pour son rôle dans Glee.
C'était la série comédie musicale.
Exactement, oui, où on avait des profs et des élèves qui chantaient. Elle était prof de PS et là aussi c'est toute ma jeunesse. Et si on se réjouit de cette 78e édition des Emmy Awards,
la dame a 30 ans,
c'est que Mariska Hargitay, bah oui, j'ai une jeunesse, elle ne sera que la quatrième femme à la présenter, un choix qui n'est pas anodin hein, parce que je vous rappelle que l'actrice de New York Unité Spéciale campe son personnage depuis 1999. L'édition 2026 des Emmy Awards se tiendra le 14 septembre prochain.
Il est 6h22 sur RMC. Très bon réveil. Les grands titres à la une ce matin, Élise.
Et les trois quarts du pays désormais en alerte canicule. La fin du cessez-le-feu au Moyen-Orient. Donald Trump promet une réponse bien pire si Téhéran poursuit ses attaques. Et puis nos bleus face au Maroc pour une place en demi-finale de Coupe du Monde. Coup d'envoi à 22h ce soir.
Il est 6h22. Bon réveil. Dans un instant, le docteur du morning qui est là. Bonjour Aurèle Guen.
Bonjour.
Salut Aurèle.
C'est l'heure de la consultation gratuite.
Et si votre estomac se mangeait lui-même en ce moment même?
Ça, c'est du teasing. Ça te dire, c'est du teasing.
Ouais.
Il est 6h23.
C'est pas mal.
Jusqu'à 7h.
5-7. Le morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h25 sur RMC. C'est l'heure d'aller voir le docteur.
RMC. Consultation gratuite.
Vous connaissez Brian Johnson, là, cet entrepreneur américain, il est millionnaire, il est obsédé par toutes ses stats, toutes les datas sur sa santé, son corps et son vieillissement. On parle de lui ce matin, Aurèle Guedj. Bonjour Aurèle. Parce que il a révélé, cet entrepreneur, qu'il souffrait d'une maladie auto-immune où son estomac se mangerait lui-même.
Exactement, cette maladie s'appelle la maladie de Birmer. C'est une maladie en fait où vous allez avoir des anticorps qui vont s'attaquer à vous-même, et plus particulièrement à des cellules, les cellules de l'estomac. Et le problème, eh bien, c'est que, les cellules de l'estomac, elles servent à quoi? Elles servent, eh bien, à produire de l'acide, donc vous allez avoir moins d'acide au niveau de l'estomac, et puis ces cellules, elles servent aussi, eh bien, à l'absorption de certaines vitamines.
Et c'est quoi les risques, alors?
Premier risque, c'est, on l'a dit, vu que vous allez avoir moins d'acide chlorhydrique dans l'estomac, on aurait tendance à dire, super, mon estomac, je comprends pas pourquoi il se mangerait lui-même. Mais le problème, c'est que cet acide, il sert à vous protéger des bactéries. Et puis, la seconde chose, c'est qu'en fait, les anticorps qui vont s'attaquer à la paroi, ça va l'inflammer. Donc, vous avez beaucoup plus de risques, 5 à 7 fois, plus de risques de faire un cancer de l'estomac. Et puis, la chose la plus courante, c'est, un risque au niveau de la carence de vitamine B12. Pour vous montrer que c'est gravissime, cette carence en vitamine B12, il faut savoir qu'en anglais, on dit pas la maladie de Birmer, on l'appelle l'anémie pernicieuse. Pernicieuse, ça veut dire quoi? C'est quelque chose d'insidieux et grave potentiellement. Parce qu'en fait, on ne voit pas arriver et ça va avoir des conséquences sur le sang. Vous allez avoir des globules rouges qui vont être anormaux en taille et vous allez en avoir peu. Et puis la seconde chose, c'est que cette carence en B12, vous allez la retrouver exactement comme pour les gens qui prennent du protoxyde d'azote. Eh bien, vous allez avoir les mêmes lésions, vous allez avoir un problème au niveau du système nerveux central. Vous allez avoir des paresthésies, des troubles de la marche. Donc c'est pour ça vraiment que c'est une maladie qui paraît un peu douce, qui met du temps à s'installer, mais en fait, elle est potentiellement grave, surtout si on se supplémente pas.
Oui, c'est un peu inquiétant. Cela dit, la carence en vitamine B12, ça concerne beaucoup de monde.
Ah en fait, oui, c'est un vrai truc. Là maintenant, on voit par exemple les véganes. Vous savez, malheureusement, il y a une chose où je trouve ça dommage, c'est quand vous avez des gens qui sur certains plateaux disent que le fait d'être vegan n'occasionne aucune carence, c'est médicalement faux, je le redis.
Pas végétarien.
Pas végétarien. Ouais. Les végétariens, eux, n'ont pas cette carence-là. Mais je le redis aux gens qui nous écoutent, lorsque vous êtes vegan, vous êtes carencé. Vous êtes carencé, c'est important de le redire. C'est pour ça d'ailleurs que tous les vegans ont de la vitamine B12. C'est la définition même d'une carence. Et donc le problème de cette vitamine-là, c'est qu'elle est essentielle à la vie et qu'il faut surtout pas, oubliez d'en prendre, il faut que les gens en aient conscience. Rassurez-vous, vous n'en avez pas besoin de grandes doses. Je vous vois, Élise, vous alliez me demander où est-ce qu'on en trouve.
Exactement, lisez dans mes pensées.
Sur tous les produits alimentaires, et que c'est suffisant par exemple pour les végétariens, dans les œufs, dans les produits laitiers. Bon, alors si vous mangez du poisson, là vous êtes refait, vous avez largement votre stock de vitamine B12, mais si vous mangez un tout petit peu de produits d'origine animale, vous aurez de la B12. C'est vraiment, ça concerne par exemple, ça ne concerne pas les végétariens, ça concerne que les véganes, ceux qui ont zéro.
Qui eux, du coup, vont prendre des cachets de B12, c'est ça.
Il y a
des
cachets de B12, c'est obligatoire.
Supplément, sinon c'est inquiétant ce que vous décriviez.
C'est ce qu'ont ces personnes-là. Et pour les personnes qui ont la maladie de Birmer, en fait, ils peuvent pas les prendre par la bouche vu qu'il faut pas digérer la B12, ils sont obligés de se l'injecter.
Oui. Donc en fait, si je mange pas de la vitamine B12, mon estomac se mange lui-même.
Non, c'est plus parce que votre estomac se mange lui-même dans le cadre de la
que
maladie
j'ai pas assez
que
de
vous n'avez pas de B12.
Ok, c'est bon, je l'ai.
6h28, ça je l'ai aussi. David est avec nous à Beaumont-de-Lomagne dans le Tarn-et-Garonne. Salut David.
Bonjour.
Bonjour David, est-ce que vous avez trouvé le mot caché du jour ?
Oui, bardassé.
Bardassé, tout à fait. Bravo David, bardassé qui veut dire faire du bruit, autrement dit ce qu'on c'est fait ça. Tous les matins dans vos oreilles.
Parler, blablabla, blablabla. Si je peux blablater un peu, bardasser un peu, bah c'est pour vous offrir aussi la Coffee Bird, la machine expresso nomade d'Aquila que vous emmènerez partout avec vous, en voiture, en rando, à la plage, qui vous servira un expresso quand vous le voulez, David.
Merci.
Félicitations. Merci, on vous envoie beaucoup. Ça dans le Tarn-et-Garonne, David, auditeur fidèle d'RMC.
5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
À la une ce matin, les vacances pas du tout reposantes avec la chaleur.
Et la température qui grimpe dans les mobilhomes et les toiles de tente avec l'alerte canicule et l'alerte aux incendies encore ce matin au niveau le plus élevé dans 5 départements. La campagne présidentielle aussi au Parti Socialiste, les militants appelés à se prononcer ce soir sur la question de la primaire. Et France-Maroc, 22h dans la soirée, quart de finale du mondial. Des Marocains, tiens, vous verrez, empêchent les Bleus de dormir ce matin à Boston.
Et il n'a jamais fait aussi chaud dans certaines villes du sud de la France.
Oui, Géraldine vient de le dire, des records absolus de chaleur. Hier, 39 à Cassis, à 40 à Marignane et Béziers, 41 à Sète et à Canet. Des pointes à 42 même dans ces départements qui accueillent beaucoup de touristes, évidemment, à cette époque de l'année. C'est pareil sur la côte atlantique où la chaleur donc est étouffante dans les terrains de camping. Pas équipés du tout à ça, c'est ce que nous dit notre correspondant RMC Pierre Bourgès.
En plein milieu d'après-midi, Cécile craque.
Je sors prendre l'air, j'en peux plus. C'est trop chaud.
Cette Nantaise venue sur le bassin d'Arcachon pour les vacances avec ses trois enfants suffoque à l'intérieur de son mobilhome. Son mari, Johan, regarde désespérément le thermomètre monter.
32 degrés à l'intérieur, c'est compliqué. Moi, je tiens pas. Fin de semaine, on part du côté de Sarlat et apparemment, les températures remontaient. On a changé notre mobilhome pour en prendre un équipé avec clim.
Facture de ce surclassement, 200 euros à ajouter au prix de la réservation initiale.
Pour pas gâcher nos vacances, et bon, on acceptait de mettre un prix plus conséquent.
Pour d'autres, c'est système D dans la caravane d'Emmanuel, les 40 degrés l'ont poussé à s'adapter tant bien que mal.
J'ai demandé des couvertures de survie et voilà, j'ai fait un paquet cadeau.
Résultat, la moitié de sa caravane est recouverte par plusieurs couvertures, face argentée à l'extérieur pour garder l'habitation au frais. Il a aussi ajouté une bâche sur son toit.
Et c'est vrai que le matin, je gagne quand même 4 degrés à l'intérieur.
Sur le bassin d'Arcachon, de plus en plus de campings anticipent ces fortes chaleurs. Depuis 2022, certains d'entre eux ont généralisé la climatisation dans les mobilhomes.
Et à ça s'ajoute le vent qui complique fortement le travail des pompiers face aux feux de forêt. Toujours en cours ce matin, celui des Pyrénées-Orientales n'est toujours pas fixé, nous disent les pompiers. Celui de l'Hérault à Carlancas, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais il s'est réactivé dans la soirée. Il y a 2500 hectares quand même qui ont brûlé aussi dans la Drôme, autour de Die, dans une zone montagneuse. Zone de montagne qui rend difficile la lutte contre le feu, nous explique Jérémy Laverne, c'est le porte-parole de la sécurité civile.
Le plus souvent, sur une zone escarpée, on va avoir du mal à avoir un accès à l'aide de nos véhicules, en fait. Quand il faut aller traiter au plus proche des foyers, on va faire ce qu'on appelle des établissements de grande longueur, avec des pompes relais et des tuyaux établis sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. C'est beaucoup plus éprouvant, et donc l'intervention des sapeurs-pompiers est beaucoup plus fastidieuse et beaucoup plus longue. Le réchauffement climatique autorise une augmentation des zones qui sont concernées, et donc on a de plus en plus de feux dans des zones montagneuses, escarpées, difficiles d'accès. C'est la raison pour laquelle on a augmenté le nombre de moyens aériens et c'est aussi la raison pour laquelle on a formé plus de sapeurs-pompiers à ce type d'intervention.
Et hier, malheureusement, c'est en Savoie, dans une zone, dans une montagne face à Courchevel, qu'un sapeur-pompier volontaire de 22 ans est mort durant une intervention.
Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, la Drôme, la Savoie, donc endeuillée par la mort de ce jeune pompier, le Cher même. Ces incendies, vous les voyez, vous les sentez, vous continuez à réagir, à témoigner au 32-16 ce matin.
La course à l'Élysée s'accélère soudainement cette semaine. Début de campagne de Marine Le Pen, vous savez, condamnée mais candidate hier dans la Sarthe à l'été. Réunion de parti au RN dans la soirée. La Cour de cassation qu'elle a saisie dit qu'elle pourrait se prononcer au plus tard début avril 2027, soit avant la date de l'élection présidentielle. Ça bouge aussi au Parti Socialiste. Cyprien Pezeri, du service politique à RMC, c'est ce soir que les quelques 20 000 militants du PS sont invités à se prononcer sur la question de la primaire et de la stratégie adoptée à gauche.
Oui, le Parti Socialiste est fracturé. Faut-il une primaire ouverte au plus grand nombre, comme le souhaite le patron du PS, Olivier Faure, avec 1 ou 2 millions de participants, ou à contrario, une sélection du candidat uniquement par les encartés, quelques milliers tout au plus, comme le veulent ses opposants. En clair, ce soir, c'est un vote sur un vote. Ça n'a l'air de rien, mais selon les modalités choisies, cela pourrait bien déterminer qui sera le candidat du PS à la présidentielle, Raphaël Glucksmann ou un autre. Le résultat risque d'être serré et chaque camp redoute déjà des bourrages d'urnes. Que se passera-t-il si l'option défendue par Olivier Faure est perdante? Ses opposants internes rêvent en tout cas d'avoir sa peau. Et pendant que le PS s'enlise, François Hollande pourrait se tenir en embuscade. Lui qui aimerait bien de nouveau être candidat. C'est simple, souffle un visage de la gauche. Il attend tranquillement le long du fleuve que les cadavres passent.
Et ne manquez pas Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, invité d'RMC à 8h30.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et à 6h34 sur RMC, les supporters marocains qui veulent empêcher les Bleus de dormir aux US.
Ouais, quelques-uns ont tiré des feux d'artifice et joué du tambour là très tôt ce matin. Vous savez que c'est la nuit là-bas à Boston devant l'hôtel de l'équipe de France. Boston où se jouera donc ce quart de finale ce soir 22h à la Coupe du Monde. Encore sans Aurélien Tchouaméni côté français, sa blessure à la cuisse qui dure. Mais avec Ayoub Bouadi, côté marocain, lui le franco-marocain, ancien capitaine de l'équipe de France Espoir, mais qui a choisi de porter les couleurs du Maroc à Valentin Jamin.
Oui, et ses performances ici ont confirmé que les Bleus avaient laissé filer un futur grand qui éblouit son sélectionneur, Mohamed Ouabi.
Pour son jeune âge, dans un contexte pareil, c'était peut-être quelque chose qui a étonné plus d'un. Il a la tête sur les épaules, c'est un garçon très réfléchi.
Né et formé dans l'Oise, Ayoub Bouadi s'est révélé à Lille, où il est titulaire depuis ses 16 ans, a fait ses sélections jeunes en bleu, avant de choisir le Maroc, un symbole fort pour un pays qui a notamment développé ses équipements, explique Nasser Larguette, ancien cadre de la fédération.
Quand ils viennent voir ces infrastructures, et ben ils craquent. Et en plus que l'équipe nationale se qualifie à la Coupe du Monde, les gens commencent à dire, tiens, je peux aller accepter cette équipe qui est le pays de mes grands-parents, de mes parents.
Et la politique marocaine pour convaincre ces binationaux est très active, avec à la clé quelques promesses. Le futur staff des Bleus, dirigé par Zinedine Zidane, avait pourtant contacté le joueur. L'actuel entraîneur adjoint français, Guy Stéphane, lui respecte ce choix.
Évidemment que Bouadi, on le connaît, c'est un pur produit de la formation française. Il a fait un choix, on le respecte. Ce ne sera pas la dernière fois non plus.
Surtout vu les résultats du Maroc, premier pays africain à jouer deux quarts de finale de suite en Coupe du Monde.
Alors c'est un match ce soir, quart de finale de la Coupe du Monde. Événement sur RMC, vous le vivrez à partir donc de 22h. Et c'est un match aussi qui va se dérouler en France sous très haute sécurité, avec plus de 20 000 policiers et gendarmes déployés partout dans le pays, selon le journal Le Figaro qui l'écrit ce matin. 8 000 environ à Paris, où les terrasses vont rester ouvertes jusqu'à 2 heures du matin. Des mesures sont prises dans de nombreuses villes. Consommation d'alcool interdite sur la voie publique à Montpellier, où le dernier France-Maroc avait été endeuillé, c'était il y a 4 ans. Feu d'artifice interdit à Toulouse. Transport d'essence, interdit à Nîmes. Des bus et les trams seront à l'arrêt pour des raisons de sécurité. Ce soir à Bordeaux, pareil à Annecy. Et les écrans tournés vers l'intérieur des bars et renforts de CRS à Nîmes, à Nice.
Avec des quartiers réservés aux supporters aussi dans la capitale. Bon, il y a évidemment les dispositifs de sécurité. D'une manière générale, vous allez le suivre où ce match, à la maison, à l'extérieur, en famille, entre amis, en couple, tu seras, on n'est pas tous invités, rassure-moi.
Dans mon lit, non, mais le micro était coupé, Mathieu.
Ah, pardon, excuse-moi.
C'était juste une blague pour Quentin Vinet, mais je suis heureuse de le
Mais c'est dur, pardon, tous ceux qui nous écoutent là, ils se lèvent tôt le matin.
Oui.
Ça part en nuit blanche s'il y a prolongation? Je sais pas, on vous attend au 32-16 ce matin.
Mais surtout que cet après-midi, faut pas rater l'étape, sur le Tour de France. Alors, comme prévu hier, ça s'est joué au sprint, cinquième étape du Tour de France, qui s'est joué au sprint à Pau, remporté par le néerlandais Olaf Coy, de la même équipe Décathlon CMA CGM que Paul Sexas, qui arrive dans son élément aujourd'hui, Paul Sexas, puisque c'est la première étape de haute montagne, 186 km entre Pau et Gavarnie, en passant par les mythiques cols d'Aspin et du Tourmalet.
Et puis il y a aussi le Quintet qui va nous tenir éveillés aujourd'hui, c'est dans la soirée à Enghien.
20h15, le 3.
Ah, ça va, c'est avant le match.
Avant le match, ouais. Le 3 et le 14, ce sont les pronostics de la Dream Team des courses RMC. Non, mais on est soulagés là quand même. Hein.
Ah, bah oui, parce que moi je misais tout sur Champus.
Bon, le 3 en favori Kingslayer Fellini, le 14 en outsider
le Champus.
Voilà.
Champus et Kingslayer.
Ah ouais, c'est une team de winners.
Ça envoie les noms de canassons quand même, c'est quelque chose. Merci beaucoup Quentin Vinet, il est 6h38 et Lohan est avec nous depuis l'Ain. Bonjour Lohan.
Bonjour Lohan.
Bonjour l'équipe, comment vous allez?
Ouais, très bien, et vous?
Pas aussi bien que vous, j'ai l'impression.
Bah, ça va, on prépare pour ce soir. Hein.
Quel contexte Lohan? Racontez-nous un peu votre soirée foot.
Bah moi déjà je me lève à 4h30, donc comment vous dire que je pense que la deuxième mi-temps ça risque d'être compliqué. Je pense que c'est la télé qui va me regarder. Mais bon, en espérant qu'il y ait du spectacle pour que je puisse avoir les yeux encore ouverts. J'espère que la France passera, parce qu'on on reste quand même un pays qui est champion du monde pour supporter les autres nations. Donc, je trouve un peu dommage. Donc, faudrait qu'on soit tous ensemble pour supporter les Bleus et qu'ils arrivent jusqu'à la fin.
Globalement,
puis...
ils ont. On parlait des footix tout à l'heure. Là, les Bleus, ils sont suivis, soutenus et même appréciés. Je veux dire, ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire des Bleus.
C'est ça, mais malheureusement par les footix.
Bah, il faut grossir les rangs pendant la Coupe du Monde, Lohan.
Voilà, c'est ça. Donc bon, ça fait un peu comme le Paris Saint-Germain. On supporte le Paris Saint-Germain quand ils sont champions d'Europe.
Ouais, mais ils le sont chaque année.
Ouais, c'est ça, malheureusement. Moi qui suis
marseillais, il y a Virginie Fulpa qui s'indigne. Moi, ma réaction, c'est une réaction de footix, là, Lohan, je vous l'accorde. Bah, Lohan, bon match à vous. Un petit prono,
peut-être. Merci, bonne journée. Bah, j'espère un 3-0 pour la France.
Allez, comme Élise. Comme quoi, on se rejoint entre les footix et les experts.
Lohan, bonne journée et bon courage pour le réveil demain. Tiens, oui, les leftos demain matin. Nous, on sera là en direct.
Je sais pas.
Moi, je vous garantis que je serai là. Donnons-nous rendez-vous. Tiens, on verra dans quel état seront les voix et les cernes demain matin dans le Morning RMC. Il est 6h40.
Elle est déjà là, la bande du Morning. Virginie nous disait qu'elle n'était pas sûre d'être là demain. Pourtant, elle est là aujourd'hui pour la causerie.
Oui, mais demain, on verra.
On verra.
En tout cas, je vous propose la méthode Coué là dans la causerie. On oublie les arbitres, les soupçons d'ingérence et le racisme et on joue.
Et toute la bande est là, parce qu'il y a déjà Anthony Morel.
Évidemment, on va parler argent de poche. L'argent de poche qui passe au numérique.
Et puis à suivre, la SNCF qui annonce l'annulation de plusieurs TGV et TER la semaine prochaine. De façon générale, le trafic ferroviaire devrait être perturbé en raison des fortes chaleurs qui affectent les infrastructures. Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transports au cabinet SIA. Dans un instant, vous nous direz si nos trains sont encore adaptés, s'il faut s'attendre à un été cauchemardesque dans les transports. À tout de suite sur RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h44 sur RMC. Très bon réveil à toutes et à tous.
Et un tiers des TGV annulés sur les lignes Paris-Clermont, Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille. Seuls 3 trains intercités sur 4 circulent. Le RER perturbé aussi à cause d'incendies en région parisienne. Et ce sera sans doute pareil pour les TER. Bref, les fortes chaleurs chamboulent complètement le trafic SNCF.
Bonjour Arnaud Aimé.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des transports au cabinet SIA Partners et l'été ne fait que commencer. Les problèmes s'accumulent déjà. Est-ce que les vacances vont être gâchées?
J'espère qu'on non et rien ne l'indique pour l'instant. Le problème, c'est que, alors vous dites ça ne fait que commencer, mais le problème pour le système ferroviaire, c'est que c'est déjà la troisième vague de chaleur. Et donc les matériels roulants, comme on dit, c'est-à-dire les trains proprement dit, les locomotives, les wagons, ont déjà été fortement éprouvés par les deux vagues précédentes. Et ça nécessite aussi de l'entretien, de la maintenance pour affronter la troisième vague qui se produit. Et puis aussi pour assurer le maximum de disponibilité des trains le jour où il y a beaucoup de voyageurs qui circulent. Et ce jour-là, c'est pas en semaine comme aujourd'hui où il y a des annulations préventives.
Alors prendre l'élan pour les week-ends de départ, quoi.
Oui, c'est ça, c'est plutôt à partir de ce week-end. Donc ce que veut faire la SNCF, c'est annuler des trains, je pense pour les TGV en particulier, annuler quelques TGV aujourd'hui pour pouvoir les mettre en atelier de maintenance, et pouvoir les entretenir, les réparer quand les climatisations sont fatiguées, pour qu'il y ait un maximum de TGV qui circulent en très bon état à partir de vendredi.
Enfin pardon, c'est un peu du bricolage, non?
Le week-end dernier, il y a à peu près tous les trains qui étaient le premier week-end de grand départ. Il y a tous les trains qui ont circulé. Ce week-end, il me semble que la SNCF annonce aucune suppression de TGV. Donc, si c'est ça le résultat du bricolage, que tous les TGV fonctionnent au moment des grands départs, je pense que c'est quand même pas mal. Là où ça relève plus du bricolage, si vous me permettez, c'est pour les trains intercités. Où pour le coup, il y a trains qui sont supprimés. Voilà, avec les rames corail. Dont on parle régulièrement en ce moment puisqu'elles ont 50 ans d'âge. Ça, c'est vrai que c'est assez lamentable de devoir annuler un quart des trains sur les lignes le Paris-Clermont, le Paris-Limoges-Toulouse, la transversale sud Bordeaux-Marseille. Oui. Ça, c'est sûr que c'est assez triste et c'est assez prévisible. Quand on a un matériel vieux de 50 ans avec une climatisation obsolète et puis usée, quand les matériels sont plus anciens, ça tombe plus facilement en panne.
Si vous suivez bien le TGV, dommage. Ça va. Les trains modernes, récents, ça va. Et on est dans de l'entretien, de l'anticipation. Et les trains intercités, ça va beaucoup moins.
Oui, c'est exactement ça. Et ça se voit dans les proportions.
Mais même, pardonnez-moi, même sur les TGV. Oui. Je sais pas quel exemple prendre parce que j'ai pas votre expertise. Mais à Dubaï, par exemple, il y a un métro aérien. Il fait 50 degrés hein, et ça roule. Enfin, je comprends pas pourquoi, parce qu'il fait 40 degrés, on peut pas tenir une semaine.
Ben, du manière générale, les matériels roulants, dans, on pourrait parler du TGV au Maroc, par exemple, ou des trains en Inde où il fait chaud.
Aussi.
S'il faisait là-bas les températures qu'il fait en France en hiver, il se passerait quoi ? Ben, il se passerait qu'il y aurait des problèmes sur l'infrastructure, par exemple.
Oui, mais c'est pas comme si ça marchait bien l'hiver, Arnaud Aimé. Pardonnez-moi, on a des problèmes de caténaires en hiver aussi.
Alors, la circulation des trams semble assez peu perturbée en hiver. Alors après, il y a des cas il peut y avoir des cas de grand froid, effectivement. Mais si c'est froid, si cette température-là se passait de la même manière au Maroc ou en Inde, les rails se fissuraient, les caténaires seront prêts. Ce qui arrive quand même pas très souvent, je dirais même à peu près jamais en France. Donc, je veux dire, tant les matériels roulants, les trains eux-mêmes, que les infrastructures, ils sont conçus pour fonctionner à certaines températures et dans les pays chauds, c'est réglé, disons, pour fonctionner aux températures chaudes, mais du coup, ça fonctionne pas bien aux températures froides. En France, tout a été conçu pour les températures tempérées et quand il fait très chaud, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ça risque de défaillir. Alors, on arrive à faire des matériels aussi qui tiennent sur des plages de température plus élevées, sauf que ça coûte beaucoup plus cher à concevoir et à construire.
Mais donc on fait quoi, Arnaud Aimé ? On fait comment pour s'adapter à ces vagues de chaleur qui vont être de plus en plus récurrentes ?
Bah, à court terme, on fait comme on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire que l'impact sur les voyageurs, alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup ensemble à la radio notamment, mais l'impact pour les voyageurs, il est encore assez limité. Là, on parle de quelques dizaines de trains supprimés par jour, sur un total de combien ? Sur un total de 15 000 trains. Donc ça reste quand même très marginal pour l'instant. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est prévenir les situations les plus graves. C'est-à-dire que la SNCF, pour les trains intercités par exemple, elle préfère annuler certains trains plutôt que risquer de les faire rouler en plein milieu de journée, là où il fait le plus chaud, avec une clim qui tombe en panne et des voyageurs qui sont dans des conditions tout simplement insupportables.
Il faut imaginer un Bordeaux-Marseille en ce moment si la clim tombe en panne. Ça vous avez raison.
Ah bah, en milieu de journée, c'est infernal. Donc
et puis la SNCF ne veut pas avoir des voyageurs aussi sur les quais. On a eu ces exemples-là de problèmes de panne technique et de sur les quais, pardon, sur les voies, de gens obligés de descendre du train avec la seule ombre du wagon pour s'abriter, quoi.
C'est clair. Et puis en plus, ça pose accessoirement quelques problèmes de sécurité. Donc ça, c'est prévenir à court terme. Alors vous me direz à nouveau, ça n'est que du bricolage. La solution, c'est de prévoir dès la conception des matériels roulants et aussi des infrastructures, que ça puisse atteindre des températures plus élevées. Et ça veut dire que ça coûte plus cher aussi. Mais par exemple, le nouveau modèle de TGV,
il est pensé comme
qui
ça.
Arrive en septembre, il est conçu pour tenir sur des plages de température plus élevées avec une climatisation plus puissante. Et d'ailleurs, on voit entre les premières générations de trains de TGV il y a 40 ans et celle qui va arriver dans deux mois, ça tient sur des amplitudes de température plus fortes.
Et oui, parce qu'il faut le rappeler, à une époque, le pic de chaleur, c'était 35 et désormais, ce sera 40, 42, etc. Merci Arnaud Aimé. Merci beaucoup. C'est toujours très clair. Vous êtes un expert spécialiste des transports au cabinet SIA Partners. Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. Il est 6h50 sur RMC. Les grands titres à la une avec Élise.
Et la longue attente avant le grand frisson France-Maroc et quart de finale de Coupe du Monde, c'est ce soir à 22h. Coup d'envoi à vivre évidemment et match en intégralité sur RMC. 6 Français sur 10 désapprouvent le choix de Marine Le Pen de se présenter à la présidentielle malgré sa condamnation en appel. Résultat d'un sondage pour BFM TV. La Cour de cassation pourrait se prononcer au plus tard, dit-elle, début avril. Et puis 35 à 40 degrés dans deux tiers du pays. La canicule s'installe.
Il est 6h51. Et c'est l'heure de retrouver la bande avec Anthony Morel, avec Virginie Fulpin. Virginie, la causerie, l'équipe de France face au Maroc ce soir en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est à 22h.
Les Bleus doivent faire abstraction, Virginie, de tout ce qui pollue l'ambiance de ce mondial.
On est entré dans l'ère du soupçon dans cette Coupe du Monde 2026. Tout le monde devient parano, notamment au sujet de l'arbitrage. Nous, Français, on s'est plaint de ce qui s'est passé samedi dernier lors du 8e de finale contre le Paraguay, avec 0 carton pour les Paraguayens, 3 pour les Bleus, alors qu'on a bien vu qu'ils faisaient le plus de fautes. Les Argentins ont dit tout le mal qu'ils pensaient d'être arbitrés par un Français contre l'Égypte. Finalement, ce sont les Égyptiens qui réclament la tête de François Le Tecquier. Ce soir, ce sont 5 arbitres argentins qui vont officier pour France-Maroc, 3 sur le terrain, 2 pour la VAR. Alors c'est tentant de verser dans le complotisme et de craindre les arbitres autant que le Maroc. Didier Deschamps ne veut pas verser là-dedans, il a raison. Sinon, c'est le meilleur moyen de perdre les pédales et le match.
Alors le problème, c'est que la FIFA, elle n'aide pas vraiment à rester serein et concentré sur le jeu.
Depuis l'ingérence de Donald Trump et le carton rouge retiré à l'attaquant américain Balogun, il faut avoir le cœur bien accroché pour se dire que tout est équitable. La FIFA a refusé d'enlever le carton jaune reçu par Michael Olise contre le Paraguay pour une faute inexistante. Ça veut dire que ce soir, le numéro 11 des Bleus reste sous la menace d'une suspension en cas de qualification de la France pour les demi-finales. C'est difficile de se dire qu'il n'y a pas de poids, de mesure. Et c'est là que les Bleus doivent être plus forts que la FIFA et faire abstraction de tout ça. C'est pas simple, mais c'est un de leurs défis du soir. La FIFA s'amuse un peu en désignant un arbitre français pour le match de l'Argentine et des Argentins pour celui de la France. Ça fait parler, on feuilletonne l'antagonisme. Ok, mais l'adversaire ce soir, c'est le Maroc, c'est pas la FIFA, c'est pas l'Argentine.
Et puis il va falloir aussi oublier les attaques racistes subies par Kylian Mbappé ces derniers jours. Hein.
Alors oublier, pas forcément, mais s'en servir. Je crois que la sénatrice paraguayenne raciste ne connaît pas bien Kylian Mbappé. Il est jamais meilleur que dans l'adversité. Les autres joueurs font évidemment bloc autour de lui. La meilleure réponse à la dame dont j'ai déjà oublié le nom, c'est sur le terrain ce soir.
Donc il faut... C'est l'autre, je crois, son nom.
Ouais, voilà. Ou la ville est mort, non. C'est ça. Donc il faut faire le vide sur beaucoup de sujets qui polluent la Coupe du Monde. On connaît les qualités techniques de cette équipe de France, les qualités tactiques de Didier Deschamps. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est la force mentale. Bon, bah, on se donne rendez-vous à 22h, je crois. Hein.
Ouais. On se donne rendez-vous à 22h et puis on se donne rendez-vous demain matin pour débriefer. Aussi, on va voir s'ils ont réussi à faire le vide, nos Bleus.
Non mais c'est très bien résumé. L'adversaire, c'est ni l'Argentine ni l'arbitre, c'est le Maroc ce soir. Merci beaucoup Virginie. Anthony Morel, l'argent de poche qui passe à la sauce high-tech. Vous nous présentez des applications qui permettent de donner un peu d'argent régulièrement aux enfants. J'espère que mes enfants n'écoutent pas, mais qu'ils leur apprennent aussi à ne pas faire n'importe quoi avec.
Oui, c'est aussi ça l'enjeu de l'argent de poche. C'est à la fois se faire plaisir, mais c'est apprendre à gérer un budget, peut-être à économiser pour s'acheter un truc un peu plus important un peu plus tard. Et pour ça, alors, jusqu'ici, bon, on donnait un petit billet en général, c'est comme ça que ça se passe. Tiens, je vous donne le chiffre. Les 8-10 ans, la moyenne de l'argent de poche, c'est 24 euros par mois. Pour les 13-14 ans, c'est 32 euros par mois. Voilà, je donne les chiffres au cas où ça pourrait intéresser.
Après, c'est une moyenne.
Les enfants.
C'est une moyenne.
C'est une moyenne, voilà. Évidemment. Alors maintenant, il y a des applications pour ça. Alors les leaders, c'est Pixpay, vous les connaissez peut-être. Mmh. C'est vraiment pas mal fait, Pixpay. Donc en gros, c'est une carte pour les enfants et les ados, une carte bancaire, qui est couplée à une application. Et via l'application, les parents vont pouvoir faire des virements réguliers. Mais ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir aussi ajouter des missions. Payé. Donc par exemple, dites-toi là, tu vas passer l'aspirateur et ce sera 2 euros.
J'adore.
Et
donc, ça me donne envie de faire des enfants.
Juste pour ça.
Voilà. Génial. Donc,
une fois que c'est validé, hop, bah voilà, vous versez les 2 euros sont versés. Vous pouvez aussi ajouter des cagnottes. Donc vous pouvez faire une cagnotte pour pouvoir, je sais pas, économiser pour un jeu vidéo. Un coffre-fort également avec un taux d'intérêt rémunéré. Alors c'est les parents qui payent le taux d'intérêt.
C'est
les parents, la banque. Évidemment.
BCE, papa
BCE. C'est exactement ça. Donc, tu dis voilà, taux d'intérêt de 10% et voilà, t'es 100 euros. Ils vont se transformer en 110 euros.
Et en plus, ils ont des taux à 10%.
C'est toi qui choisis le taux. Mais bon, pour que ce soit intéressant sur des sommes qui sont relativement petites, faut quand même des taux un peu intéressants. Non, mais c'est malin, je trouve, parce que c'est vraiment les bases de l'éducation financière. Il s'agit pas de dire que les enfants vont se transformer en traders, évidemment. Mais l'idée, c'est vraiment qu'au-delà du fait d'aller acheter des bonbons, eh ben, on peut aussi apprendre à économiser pour se faire plaisir un petit peu plus tard.
Bon, voilà. Ça, c'était pour les ados, pour les plus jeunes.
Alors, pour les plus jeunes, il y a un truc génial, c'est le Money Walkie. Ça a été inventé par des français. C'est hyper malin. Donc je vais le décrire. C'est un petit objet qui prend plein de formes différentes. Là j'ai une petite manette de jeu vidéo. Là j'ai un bubble tea. Voilà, c'est ça. Oui. Et en fait à l'intérieur ça cache une carte. En fait c'est une carte sans contact. Donc vous pouvez des virements dessus. Et vous l'enfant plutôt que de se balader avec des billets dans les poches, alors on peut se faire racketter. Enfin il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Et ben là avec ça on va pouvoir aller acheter n'importe quoi.
Génial. Bon,
aller à la banque. Hyper malin. Voilà, hyper malin. Ça
Money
coûte une centaine d'euros. Money
Walkie. Pour les plus petits. Merci Anthony Morel. 6h50. 56, c'est la patronne, elle est là. Salut à Pau.
Mais vous êtes les patrons aussi. Allez, chacun son tour. En effet, je prends le relais dans un instant. Et puis, je voudrais qu'on revienne, tiens, ensemble sur ce début de campagne agitée pour Marine Le Pen. Écoutez, c'était hier dans la Sarthe. Pas de délinquants au gouvernement, concert de casseroles, cris de militants anti-RN. Marine Le Pen pourra-t-elle faire campagne normalement? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut l'empêcher de faire campagne pour 2027 ou au contraire respecter le choix des électeurs? Vous en pensez quoi? Venez donc réagir, vous nous appelez au 3216 ou sur le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
5-7, le Morning RMC.